Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Elle doit occuper environ un rayonnage de la bibliothèque chez mes parents. Petite, j'aimais bien l'ouvrir parce que les bords de pages étaient découpés par thématiques, comme des intercalaires où je pouvais glisser l'index. Mais entre nous soit dit, je n'ai jamais fait de recherche sérieuse dans l'encyclopédia universaliste de mes parents. Trop de pages, écrites trop petites et sans photos. L'ennui. Non, quand j'ai eu l'âge de faire des exposés sur les plantes carnivores, les 12 travaux d'Hercule ou Mathilda de Roald Dahl, j'allais sur les internets, sur l'encyclopédie qui cherche à ta place, Wikipédia. Je cliquais, 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 jusqu'à plus savoir quoi lire ni ce que je lisais. En fait, les enfants nés depuis 90 ont fait des wiki-exposés. Résultat numéro 1, un peu comme on a oublié comment faire ses recherches dans le Quid 1999, on ne sait plus non plus se servir d'une encyclopédie en 27 tomes. Résultat numéro 2, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Encyclopédia Universalis en redressement judiciaire le 30 octobre dernier pour une première période de 6 mois. Merci le web, merci les jeunes.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, vous retrouverez le billet Lance Torpille de Yann. Ce sera juste avant l'interview de Francis Métivier, le rapo philosophe qui sera en conférence mercredi soir au Shabada. Interview qui sera elle-même juste avant le billet sportif de Julien, qui sera lui-même juste avant le choix de sortie de Raphaël. Ça fait du monde. Mais d'abord...
La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention.
Alors, tu fais quoi pour me sauver ?
Oh, il bouffe du code.
Toi, t'as vraiment tout compris.
Tirez-vous, les foutus !
Demain, je vais sauver le monde.
À partir de mercredi et pendant 48 heures non-stop, 250 participants vont s'affronter dans 7 pays européens et 14 villes de France pour le Green Code Lab Challenge. 48 heures non-stop pour départager le meilleur éco-concepteur logiciel. N'ayez pas peur, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, mais on va nous expliquer. En studio, 3 étudiants, 2 participants à cette nouvelle édition. Lamia de Listia, bonsoir.
Bonsoir.
Et Corentin de Lesèbes, bonsoir.
Bonsoir.
Un ancien gagnant de l'année dernière, Pierre Albéric de Lesèbes, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Franck du groupe et Zeb, chargé de communication du challenge. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, un constat d'abord, quelques chiffres en pagaille, allons-y. Les technologies de l'information représentent 2% des émissions de CO2, soit comme le transport aérien. Elles consomment 13% de l'énergie, de 13% de l'électricité mondiale. C'est ça jusqu'ici, j'ai les bons chiffres.
C'est bon.
Dans l'avenir, pour l'avenir, le projet Web Energy Archive donne quelques chiffres. La consommation énergétique des infrastructures du web pourrait représenter en 2030 l'équivalent de la consommation énergétique mondiale de 2008, ça fait beaucoup. Autre chiffre et après j'arrête. Les 100 sites français les plus visités engendrent une consommation annuelle totale équivalente à la consommation d'énergie de plus de 3000 foyers. Voilà, ça c'est pour poser le décor. Et j'aimerais savoir comment ça se fait que quand on clique sur Internet, quand on fait une recherche, quand on utilise un logiciel, ça pollue.
Je t'en prie.
D'accord. Eh bien, quand on va sur Internet, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément le matériel qui peut être derrière et qui va pouvoir nous permettre de transmettre l'information et surtout de la stocker. Et donc, ces matériels sont présents dans ce qu'on appelle notamment des data centers qui consomment énormément d'électricité. Et donc, c'est surtout ça, quand on parle de pollution Internet, on parle surtout de consommation d'électricité de ces matériels qui vont nous permettre de stocker l'information et de la diffuser.
C'est quoi un data center ?
C'est énormément de serveurs qui sont réunis au même endroit.
Et qui servent à quoi ?
Qui servent à répondre à vos clics. Quand vous cliquez, par exemple, quand vous allez sur Wikipédia pour vérifier votre information pour votre exposé, vous faites appel directement à donc, plusieurs serveurs. Pour faire simple, vous allez aller faire le tour du monde pour aller sur un serveur où est stockée l'information, qui, lui, est stockée dans un data center.
Donc, il y a les data centers qui consomment beaucoup d'électricité. Est-ce qu'il y a autre chose derrière nos écrans qui fait que tout ça est très polluant ? Ou ou c'est la principale cause de cette électricité consommée?
La principale cause, c'est les data centers. Après, c'est du réseau, c'est du routage, c'est la transition d'information pour aller d'un point A à un point B. Et c'est pas énorme.
Est-ce qu'on sait combien il y a de data centers dans le monde, ou alors en France, est-ce qu'il y en a déjà?
Oui, il y en a beaucoup en France. Il y a OVH, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un hébergeur qui a trois sites principaux, Roubaix, Paris et Strasbourg, qui sont d'énormes data centers de au moins 1000 mètres carrés. Pardon.
D'accord.
Et il y en a plus que ça.
Donc à chaque fois, ça représente cette taille-là, quoi. C'est énorme.
Ça peut être beaucoup plus gros.
Et donc, pour compléter l'information, alors maintenant, ça devient important de bien concevoir les data centers de manière à ce qu'ils polluent le moins possible. Et donc, notamment, l'un des partenaires du challenge, donc Sigma, une entreprise nantaise, qui a construit un data center éco-conçu, on va dire, voilà, de manière à ce qu'il pollue un peu moins. Voilà. Donc, il a été fait de manière à ce que la consommation d'électricité soit la plus faible possible.
Merci pour cette transition, Franck. Je vais vous parler donc de l'éco-conception, puisque j'ai chopé une définition sur le site du ministère du Développement Durable. L'éco-conception consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens ou services. Ça veut dire que dès lors qu'on imagine un bien ou un logiciel, puisque ça va être le sujet, il faut déjà se projeter en comment on va moins polluer, c'est ça?
Exactement.
Alors, comment ça se transpose au logiciel?
Pour faire simple, plutôt que de rechercher une information dans toute une liste, même si on trouve l'information dès le début, dès qu'on trouve l'information, on arrête. Plus simplement.
Ça, c'est le plus simple possible, vraiment.
Oui. Ouais, sinon, on va essayer... le plus important, en fait, c'est vraiment de concevoir au plus près du besoin et de pas forcément... vous avez, par exemple, 50% du code dans Word qui est quasiment inutile. Par exemple, vous avez un flipper dans Word, est-ce que c'est vraiment utile? Et c'est des choses qui vont...
Un flipper?
Oui. Il y a un flipper dans Word.
C'est ce qu'on appelle des easter eggs. C'est des petits ajouts des développeurs, histoire de s'amuser, sauf que parfois, ça peut trop consommer.
Mais un flipper...
Un flipper.
Un jeu.
Un jeu flipper. Dans Word.
Dans Word.
J'ignorais ça.
Truc d'informaticien, c'est pas grave.
C'est des blagues d'informaticien, oui, c'est ça, à la conception du logiciel. Donc l'idée, c'est que, voilà, vous, votre challenge, là, ça va être de concevoir un logiciel et de l'imaginer dès le départ écolo.
Exactement, et de l'optimiser au maximum.
Pour donner une petite image, alors, personnellement, vu que je suis pas du tout du côté technique, je peux peut-être simplifier. C'est par exemple, lorsqu'on va sur Facebook, actuellement, les vidéos qui sont postées, elles se chargent automatiquement et parfois elles se lisent automatiquement. Donc le but, c'est peut-être justement de... Ça consomme. Donc le but, c'est que les éléments qui se chargent sont seulement ceux dont on a besoin. Voilà, donc c'est par exemple lorsqu'on défile une page, qu'elle se charge petit à petit. Comme ça, si on a besoin de l'information qui est tout en haut de la page, eh ben, l'information qui est en bas invisible, elle ne s'est pas chargée et du coup, on n'a pas consommé en trop, quoi. Voilà.
Sur le site du Green Code Lab, on voit qu'il y a en fait un développement logiciel durable s'appuie sur trois piliers différents. Le premier, c'est donc la préservation de l'environnement, donc on vient d'évoquer. Il y a également l'équité sociale.
Oui.
Alors Corentin, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour adapter un logiciel à ce concept-là d'équité sociale?
Alors normalement, ces trois piliers, c'est pour tout ce qui est développement durable. Pas seulement pour l'informatique. Mmh. Pour l'informatique, c'est très compliqué de trouver un point d'accroche par rapport au sociétal ou au social. On va plutôt essayer de baisser la consommation d'énergie, faire en sorte que ça soit un logiciel qui est sur la durée et qui évite les impacts négatifs sur le travail des personnes. Ce sera surtout ça. Le sociétal est très peu intégré dans le développement informatique.
Et le troisième pilier, alors peut-être qu'il n'est pas non plus intégré, c'est l'efficacité économique. Est-ce que là, pour le logiciel, c'est possible?
Oui. Bah, par exemple, un logiciel qui s'ouvre en une seconde ou un logiciel qui met une minute à charger, on a une différence d'efficacité. La productivité est plus rapide.
Est-ce que des travaux ont déjà été menés? Est-ce qu'il y a déjà des logiciels qui sont éco-conçus et peut-être qu'on utilise sans le savoir?
Non. Je pense que voilà.
Non, ça n'existe pas encore.
Ou alors c'est pas mis en avant du tout.
On va dire que c'est plus connu au niveau des sites web comme Facebook qui met en place des nouveaux modèles de conception. Ils ont créé leur propre langage.
Hip-hop.
Ils ont repris tout le code dès le début Et on fait en sorte que quand on va dessus, que quand l'utilisateur va sur Facebook, ça, la consommation est réduite.
Donc c'est encore assez nouveau, quoi, tout ça, même oui. si Facebook s'y est mis.
C'est ça.
C'est un des rares exemples, en fait, qu'on peut citer, quoi.
Oui, et puis les seuls exemples que je connais personnellement, ce sont des sites web, ce ne sont pas des logiciels.
Ça veut dire que ouais, donc, le Grid Code Lab est vraiment précurseur dans le domaine.
Tout à fait.
Et ça veut dire qu'il y a des perspectives, en fait, derrière, ou est-ce que vous pensez que ça va pas forcément prendre? Est-ce que c'est une mode passagère, ou est-ce que vous, déjà, en tant qu'étudiant, vous vous projetez dans ce domaine-là de d'éco-conception?
Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de passager, parce que aujourd'hui, l'informatique, le logiciel, on en est quasiment à des balbutiements. C'est pas vraiment quelque chose qui est très attendu. Et aujourd'hui, quand on voit finalement l'évolution qu'il y a eu, ne serait-ce qu'en 10 ans, on se rend compte que ça va être amené à prendre de plus en plus de place, et que justement, l'intérêt, c'est de se projeter dès aujourd'hui dans l'éco-logiciel, afin que plus tard, on ne répète pas forcément les erreurs qui ont été faites, notamment dans l'industrie traditionnelle.
On va tout de suite parler de ce challenge qui vous attend. Ce sera juste après Diroff avec Big House Waltz.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on parle du Green Code Lab Challenge. J'ai réussi à le dire sans accrocher. Un challenge de 48 heures pour départager le meilleur éco-concepteur logiciel. Je pense que on a réussi à poser les bases du concept. Cette année, le Green Code Lab s'est allié à l'École supérieure angevine en informatique et productique, les EP, pour organiser cette deuxième édition du challenge qui se déroulera donc de mercredi à vendredi. Comment ça s'est passé, Franck? Comment ça se passe? Comment ça va se passer aussi pour... Il y a tout un système de vidéoconférence, en fait, pour relier toutes les villes qui participent à ce projet.
En tout, il y a 14 villes qui participent à ce challenge, réparties dans 7 pays différents en Europe. Du coup, c'est impossible de faire venir tous les étudiants dans un unique lieu, Angers, par exemple. Du coup, on a mis en place un système de visioconférence sur chaque site, de manière à ce que tous les étudiants et participants puissent échanger en temps réel. Voilà, à 3h du matin, mercredi soir, les Suédois pourront communiquer avec les Angevins ou les Nantais pour discuter d'un problème technique ou ce genre de choses. Voilà.
Et s'entraider. Même si c'est un challenge et qu'à la fin, il y a des vainqueurs.
Tout à fait. Donc, l'objectif de l'association Green Code Lab et de l'ESEP en faisant ce challenge, c'est surtout de développer un esprit de collaboration entre les participants sur cette thématique qui est nouvelle et pionnière. Donc, c'est important que tout le monde aille dans le même sens. Donc, afin que ce soit reste un challenge, il y aura des points qui seront attribués à des personnes qui aideront d'autres, voilà, sur des thématiques qui sont vraiment bloquantes. Le but, c'est pas qu'une équipe reste au point mort parce qu'elle n'a pas réussi à installer la toute petite chose du début. Voilà, donc les équipes qui aideront les autres gagneront des points, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment important de la collaboration dans ce challenge.
Donc, on a bien compris qu'en fait, le noyau dur, il se passait entre Nantes et Angers. L'année dernière, les trois premiers prix étaient revenus à des Angevins, dont Pierre Albéric ici présent. Pourquoi est-ce qu'on a la main verte 2.0 plus qu'ailleurs à Angers?
Donc, dans beaucoup d'écoles, ce sont des options, alors qu'à l'ESEP, ça fait vraiment partie du cursus du tronc commun des étudiants en informatique. Donc oui, je pense qu'on a un certain avantage sur d'autres.
Alors, comment ça se passe exactement ce challenge? Donc, c'est sur 3 jours. Comment il y a un sujet à la base, c'est dissertation libre, comment ça se passe?
Alors tout à fait, donc là je peux pas en dire trop parce que le sujet, c'est bien impossible de le révéler. C'est tout simplement, on pose un sujet, on pose des contraintes, on va dire, comme si on était un peu dans une entreprise. Voilà, donc il y a des contraintes, les étudiants doivent répondre à ces contraintes. Donc on leur donne soit un logiciel, on leur donne soit un site web, soit une application mobile, etc. Et donc, ils ont 48 heures pour l'optimiser. L'objectif, c'est que la performance reste la même. Voilà. Le but, c'est pas de dégrader le logiciel ou le site web et que la performance soit vraiment réduite. C'est de garder une même performance. Et après, ils ont 48 heures pour traiter le code, pour faire un peu ce qu'ils veulent pour l'optimiser. Voilà.
Et comment ça s'est passé l'année dernière, Pierre Albéric? Donc, vous avez dormi quand même? Comment ça se passait en équipe ou c'est seul d'ailleurs? Et vous étiez en équipe?
Tout le monde était en équipe.
D'accord.
Cette année, je ne sais pas ce qu'il y en est, mais...
De même.
C'est de même.
Donc, c'était des équipes de 3, 4, nous étions 5. Donc, on se répartissait les tâches. Au début, on s'était dit qu'il y aurait toujours quelqu'un qui travaillait, puis finalement, on a tous été dormir à peu près au même moment, histoire d'être plus performant le lendemain. Les nuits, c'est 4, 5 heures, ça dépend, avec une petite sieste dans la journée, histoire de tenir le coup. Beaucoup de café. Et en ce qui nous concernait, on avait une application mail que nous devions optimiser. Et les premiers ont réussi à faire... ceux qui ont le plus optimisé étaient les deuxièmes.
Le deuxième prix.
Le deuxième prix, c'est ça. Ils ont réduit de 50% la consommation, donc côté client. Et nous, on était légèrement derrière. Ce qui nous a aidé, c'est ce dont parlait Franck tout à l'heure, c'est-à-dire l'entraide. Il y a une partie aussi, communication. Faut que c'est-à-dire qu'on propose sur Facebook, on met notre groupe, et derrière, les gens doivent voter, ou liker, du coup.
C'est participatif.
C'est ça. Et nous, ça nous a fait passer devant.
D'accord. Très populaire.
C'est ça, mais bon, on était légèrement pas très loin derrière au niveau de l'optimisation global.
C'est vrai que le but du challenge, c'est aussi de faire des participants des ambassadeurs du Green IT. Alors, on aime bien ce terme. C'est pour ça qu'on les pousse à... qu'on inclut un critère de communication dans la notation finale, pour les pousser à faire parler de l'éco-conception logicielle autour d'eux, autour des entreprises qu'ils peuvent croiser, etc. Pour justement que c'est un impact plus grand. Voilà, donc c'est pour ça que ce critère est pris en compte dans la notation.
Lamia et Corentin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer cette année ?
Alors moi, j'ai pas eu le choix.
Mince, pardon.
C'est une partie obligatoire de notre cursus, mais je suis très content d'y participer parce que, premièrement, il y a un voyage à Los Angeles à gagner.
San Francisco,
moi j'étais pas loin. Qui est quand même très intéressant. Et deuxièmement, l'éco-conception logicielle, je pense que c'est quelque chose, un plus dans la formation d'un ingénieur, et donc pouvoir l'appliquer et se confronter à d'autres personnes tout en s'entraidant, ça m'intéressait aussi.
La mienne, Listia, c'est pas obligatoire ?
C'est pas obligatoire, chacun prend la responsabilité de travailler à côté, d'approfondir les notions sur leur temps libre. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de participants. Je crois qu'on a 7 équipes à Listia, c'est quand même beaucoup. Et je pense que, d'une part, c'est aussi se donner bonne conscience, faire notre bonne action. Et aussi, on se rend bien compte que aussi, c'est un peu l'avenir actuellement dans la conception logicielle, c'est vraiment de prendre en compte les contraintes environnementales. Donc c'est principalement pour cette raison.
Est-ce que c'est cliché de penser que c'est pas très féminin le code, c'est pas encore très répandu, c'est pas encore très mixte, ou est-ce que c'est pas du tout vrai?
Si.
D'accord.
Un peu.
Je vous voyais lever les yeux.
Si, complètement. Moi, par exemple, je suis pas vraiment dans la filière informatique de mon école, mais bon, c'est plus par passion entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est très très masculin comme discipline, c'est sûr.
Étonnamment, en France, encore plus qu'ailleurs.
On sait pourquoi, on a des explications. Bon, vous n'arrivez pas à les intégrer, les filles, dans votre classe, c'est ça.
Et pourtant, on en a deux.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, Pierre Albéric ? On va parler du voyage à San Francisco, bien sûr. Mais ces 48 heures de code, en fait, intensif, est-ce que ça vous a aidé après, dans la suite de l'année ?
En soi, oui, puisque comme Corentin, ça faisait partie du cursus, donc nous étions notés dessus. De ce point de vue, ça m'a aidé dans mon année. Et d'un autre côté, même si je compte pas en faire passer ma vie à faire de l'optimisation logicielle, du green et tout ça, ça permet d'acquérir quand même des bonnes pratiques que je compte utiliser, que ça s'automatise.
Et puis ça vous a permis d'aller à San Francisco.
Ça m'a permis d'aller à San Francisco.
Peut-être, Franck, on peut se poser la question pourquoi à San Francisco ? C'est parce que c'est une ville qui est très en avance sur le sujet, en fait, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout simplement, c'est le fait de pousser les étudiants dans la Silicon Valley. Voilà, c'est Apple, c'est Facebook, c'est Microsoft, Google. Enfin, voilà, y a toutes les références niveau numérique. Donc c'est pour ça, c'est un peu un clin d'œil à toute cette partie-là. Donc c'est intéressant d'envoyer les étudiants gagnants dans cette ville qui est mythique pour ça. Et ce serait bien de les pousser justement, toutes ces entreprises, Apple et Facebook, à faire de l'éco-conception logicielle.
Alors comment ça s'est passé sur place, Pierre Albéric ? Vous avez pu visiter des firmes comme ça ou...
On est arrivé sur place et on a commencé par la ville et les alentours. Puis après, quand on a pu aller dans la Silicon Valley en elle-même, on a été un petit peu recalé à certaines entrées. Par manque de contact, il fallait absolument connaître quelqu'un pour pouvoir visiter. Sauf Microsoft, qui n'avait pas grand monde. Enfin, ils s'occupaient de personne au moment où on est arrivé, donc ils nous ont dit petite visite privée, rien pour vous cinq. On a pu donc voir les bureaux et toute la partie administrative, sans entrer trop. Sans voir les projets en cours, etc. Mais on a vu quelques petites choses sympas.
Ça ressemble à quoi la Silicon Valley ?
Beaucoup d'arbres. On s'attendait à des immeubles un peu partout et ils ont leur site à eux. Google, je crois qu'ils ont, je sais plus, 13 bâtiments ou quelque chose comme ça, un peu éparpillé. Et quand on se promenait en voiture, tout était délimité par des arbres, des parcs, c'était très vert.
On espère que Corentin et Lamia, vous pourrez aller faire un tour l'année prochaine.
On l'espère aussi.
Ah, ce sera pas ensemble.
Ouais.
Soit l'un, soit l'autre.
Franck, en parallèle, il y a des conférences, des colloques qui sont donnés.
Alors, tout à fait. L'objectif, alors il y a plein d'objectifs dans ce challenge, mais c'est aussi d'intégrer les entreprises à cette thématique. Donc c'est pour ça qu'on a, on a intégré un programme de conférences donc, qui a lieu à la fois à Nantes le jeudi après-midi et à Angers le vendredi matin. Donc en tout, c'est 14 conférences d'une demi-heure environ sur l'éco-conception logicielle qui vont être diffusées en ligne et qui seront accessibles directement dans les lieux. Donc voilà, le but c'est de pousser les entreprises à s'intéresser à cette thématique intéressante et porteuse pour le futur.
L'année dernière, ça avait pris comment ?
Alors il y avait eu quelques entreprises. Étant donné que ça avait été décidé un peu plus tard dans l'organisation, il y avait eu principalement des étudiants qui avaient pu justement voir les conférences et parfois apprendre certaines choses pour le challenge. Voilà, donc ça peut être l'occasion d'apprendre quelque chose et de l'utiliser directement sur le logiciel ou sur le sujet qui sera mis cette année. Et voilà, ça a été intéressant. Donc cette année, il y a plus d'entreprises qui vont participer et voilà, c'est intéressant.
Comment on peut faire, nous, tous les jours, les utilisateurs lambda qui ne connaissons rien, mais rien en code, pour être plus écolo quand on surfe, quand on clique ? Est-ce qu'il y a des petits conseils ?
Tout d'abord, dans les navigateurs, les sites qu'on utilise le plus, il faut les mettre en, comment on appelle ça,
en favori,
pour éviter de faire une recherche sur Google. La recherche elle donne plusieurs résultats, tout ça, ça fait travailler les serveurs, alors que quand on clique directement sur son favori, on accède directement au site.
Plutôt que de taper Facebook dans la barre en haut, taper facebook.com, tout simplement.
Ça déjà, c'est
ça cool. Déjà, c'est une requête en moins sur les serveurs Google et un accès direct à votre service.
Et c'est green.
Sinon,
bah, éteindre votre ordinateur quand vous ne l'utilisez pas, éteindre l'écran si jamais vous n'en avez pas besoin et que vous ne voulez pas éteindre votre ordinateur. Des choses logiques.
Sur des longues périodes, éviter la mise en veille, qui consomme même si on, malgré tout.
Est-ce qu'il y a des navigateurs qui demandent moins ?
Internet Explorer, mais c'est moins agréable pour naviguer. Chrome est l'un des plus gourmands, en l'occurrence.
D'accord, donc privilégier Internet Explorer même
non,
si...
Non, je ne dirais pas ça. Firefox est un bon milieu.
Après, il y a pas mal pour ceux qui font des blogs ou ce genre de choses, notamment sur la taille des images. C'est tout bête, mais voilà, il y a des logiciels qui permettent de réduire les images facilement sans dégrader la qualité, notamment pour une qualité web. C'est vrai qu'on n'a pas... parfois, pour faire des affiches de mètres de long, c'est important d'avoir une image de très bonne qualité. Pour de la publication sur un blog ou Facebook, ça ne nécessite pas 2 gigas de photos. Donc voilà, ça peut permettre aussi de réduire un peu.
D'être plus écolo. Merci beaucoup à vous quatre. Et donc, bon courage aux participants pour le challenge qui s'annonce. Merci. Dormez bien.
On va essayer.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. C'était The Butcher's Bride avec Calibro 35.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est lundi et c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann.
Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Samedi 22 novembre, début d'après-midi, il fait pas spécialement beau, je suis pas spécialement en forme, mais j'ai pas spécialement envie de travailler mes cours. L'appart est en bordel, l'évier est rempli de vaisselle sale depuis une semaine et demie. Je pue et mes seules fringues propres restantes sont un t-shirt trop petit traînant au sol dans la poussière et un vieux jean noir troué à l'entrejambe. Jusqu'ici, tout va bien, je suis étudiant. Bon là, je vous entends déjà me dire « Mais mec, on s'en fout de ton emploi du temps, viens pas à la radio pour nous raconter que ta vie étudiante c'est pas facile tous les jours. » On se calme. Tout ce que je raconte a un sens et un but. C'est ce qu'on appelle contextualiser une histoire. Et si t'es pas content, c'est pareil. Non mais c'est vrai ça, on remet toujours en doute mes débuts de chronique, mon style d'écriture et tout, et puis après on vient m'interrompre. Ah, elle est belle la jeunesse française, comment veux-tu que...
Yann, on est tout seul dans le studio, tu t'es fait interrompre par ton personnage.
Ok, d'accord, mais je suis pas fou, ok? Bon, où j'en étais? Ah oui, tout ça m'amène au sujet de ce soir. Je n'irai plus jamais de la vie, plus jamais de toute mon existence, plus jamais jusqu'à l'infini, plus jamais, 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 bon, sauf si j'ai vraiment pas le choix, plus jamais, 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 je ne referai mes courses le samedi après-midi. C'est comme si tout le monde venait faire ses courses en même temps. Avant, chez mes parents, c'était génial, le vendredi soir, le frigo était vide, le samedi matin, comme par magie, il était plein. Mais aujourd'hui, lorsqu'il ne me reste plus qu'un yaourt périmé depuis 3 mois dans le frigo, il faut bien se rendre à l'hypermarché le plus proche. Mais quelle galère, les amis. Déjà, quand tu arrives, il y a seulement une place de parking libre, et évidemment, elle est à l'opposé de l'entrée du supermarché, entre une Clio avec le pare-choc défoncé et un monospace rayé de partout. Tout va bien. Tu vas chercher un caddie, tu mets une pièce de 2€ dans ce dernier et tu choisis celui qui reste évidemment attaché au suivant. Tout va bien. Tu rentres dans le magasin, tu te tapes contre les portes battantes à l'entrée qui devraient être automatiques, mais qui sont en panne ce jour-là. Tout va bien. Tu réussis à franchir ces satanées portes battantes et te fais accoster par un animateur de promotion avec une chemisette rose et une cravate Titi et Grosminet. Tout va bien.
Bon, t'as réussi à entrer dans le magasin, c'est au moins ça, Yann.
Oui, et c'était pas gagné parce que j'aime vraiment pas faire mes courses, je crois que je vais le dire et redire au cours de cette chronique. Déjà, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Le samedi, il y a que des vieux. Je m'y attendais, moi aussi on m'avait confié, la légende, on m'avait prévenu que l'inter du coin se transformait en maison de retraite le samedi après-midi. Mais à ce point-là... Les rayons sont bondés, et pendant que je me fraye un chemin en envoyant quelques gentils coups de coude dans la tronche des autres clients, j'entends des petites voix. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'attraper cette boîte de biscottes tout en haut? Pouvez-vous tenir ma canne? Pourriez-vous m'aider à mettre cette courgette dans mon cabas ?» Et comme je suis grand, je fais mine de rien entendre, les ignore et les laisse galérer. Oui, je suis une enflure. Bon, je sens que je vais me faire allumer, mais il n'y a pas que les vieux qui sont chiants. Parce que même s'ils sont une bonne majorité, l'autre grande partie de la clientèle du samedi après-midi, c'est les familles. Et qui dit famille dit parents accompagnés de leur ingérable marmaille qui court dans tous les sens, de préférence avec un mini caddie. Parce que ah, c'est trop rigolo de faire les courses et de mettre des Kinder et des Barbie dans un caddie à ma taille. C'est marrant, mais c'est surtout chiant. Après 10 minutes, ils préfèrent largement s'amuser à foncer dans tes fesses, pour ne pas être vulgaire. Mais heureusement, derrière eux, il y a des parents sévères qui osent abuser, hein, si j'ose dire, de leur autorité. Chaton, arrête d'embêter le monsieur, hein, tu vois bien qu'il est énervé. Et au final, je crois que j'aime pas du tout faire mes courses. Déjà parce que t'as toujours un caddie pourri, lourd, mal entretenu, grinçant, avec des roues arrière généralement bloquées, t'obligeant à faire des dérapages incontrôlés à chaque virage de chaque rayon, tel un Michael Schumacher un matin de 29 décembre 2013 sur les pistes de Méribel. Ensuite, tu sais jamais quoi choisir dans les rayons. Par exemple, moi, au rayon du papier WC, samedi après-midi, ça a été un vrai challenge face à la profusion du choix. Il y a tellement de marques. Bon, pour tout vous dire, j'ai fini par faire confiance à la marque qui semblait la plus sérieuse avec des feuilles de papier 24 épaisseur ou de rosée de champs de tulipes pour bien prendre soin de mon postérieur. La promesse d'un peu de tendresse, n'est-ce pas?
Merci pour les détails.
Oui, mais bon, ça fait plaisir de donner un peu de détails. Puis vient l'arrivée en caisse, le coup fatal. L'hôte de caisse, la caissière, le caissier, passe tes articles plus vite que son ombre, les faisant s'accumuler devant toi avec la quinzaine de sacs que tu es encore en train d'essayer d'ouvrir à grands coups d'index mouillé de salive. À la fin, il t'annonce le prix et te regarde avec insistance jusqu'à ce que tu introduises ta carte dans le terminal de paiement, alors même que ton pot de bolognaise, tes choucapic et tes conserves de petits pois ne sont pas encore rangés. Tout va bien. Libération. Tu sors et retournes à ta bagnole qui a évidemment été esquintée par les coups de portière de la Clio et du monospace, et tu te dis enfin que c'est fini, tout en sachant très bien que tu vas devoir recommencer dans 2 ou 3 semaines. Merde, je crois que j'ai oublié le beurre. Ah, et le café aussi. Ah, bonne soirée et à la semaine prochaine.
Merci Yann.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Mercredi soir, Francis Métivier donnera une conférence performance rap and philo au Shabada à 19h. Nous lui avons passé un coup de téléphone pour savoir de quoi il s'agit. Bonjour Francis Métivier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à Saumur. Vous aviez publié en 2011 un essai intitulé « Rock and philo » dans lequel vous confrontiez des textes de chansons rock avec des théories philosophiques. Et vous avez récidivé là en mai dernier avec « Rap and philo ». Même concept, Booba rencontre Nietzsche, Section d'Assaut rencontre Sartre. Et vous dirigerez mercredi donc une conférence au Shabada à partir de 19h intitulée « Rap and philo » avec 4 crises. Est-ce qu'on peut revenir un peu aux origines du projet Rock and philo initialement? Pourquoi est-ce que vous étiez rendu compte que vos élèves comprenaient davantage avec des exemples peut-être? Pourquoi est-ce que vous aviez lancé cette idée de confronter des textes rock avec la philosophie?
Bah, déjà, il y a une évidence chez moi depuis très longtemps, l'évidence selon laquelle le rock et la philosophie se posent les mêmes questions. Éprouvent les mêmes doutes en fait. Après il y a des traitements qui sont très différents en termes de style et de façon d'écrire, etc. Enfin, la philosophie c'est la philosophie, la musique, le rock c'est un art, donc c'est voisin mais c'est différent. Mais le point de départ de ce projet c'est les interrogations communes que se posent le rock et la philosophie. Après en philosophie, que ce soit quand on enseigne ou quand on écrit, c'est vrai qu'on arrive beaucoup mieux à se faire comprendre en illustrant une idée par un exemple. Et là, l'idée, c'est de faire comprendre les grandes idées philosophiques par des morceaux rock. Comme le lien me semblait évident, moi, j'ai mis ça en œuvre à travers un livre, Rock and Philo. Et puis également une performance où cette fois-ci c'est sur scène que j'explique l'intérêt philosophique de morceaux rock en les interprétant moi-même sur scène, seul ou avec un groupe.
C'est quoi les liens communs, enfin les points communs, les liens entre le rock et la philosophie? Ça vous semble évident, mais peut-être que c'est pas évident pour tout le monde.
Bah, les questions sont les mêmes. Les questions sur le sens de la vie, sur la question qui suis-je, qu'est-ce que je vaux. Quel est mon avenir? Est-ce que j'ai un avenir? Est-ce que la société a un avenir? Qu'est-ce que l'amour? L'amour peut-il durer? Qu'est-ce que la souffrance? Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce que le bonheur est possible? Est-ce qu'il est raisonnable de céder à tous ces désirs? Est-ce que la vérité existe? Et si oui, par quel biais est-ce que je pourrais la trouver? Voilà. Toutes ces questions qui sont des questions somme toute assez courantes, et le rock et la philosophie se les posent.
Après, vous êtes tourné vers le rap, parce que beaucoup de lecteurs vous en ont parlé. J'ai cru comprendre qu'initialement, c'était pas votre tasse de thé. Comment est-ce que vous êtes rentré dans le rap ?
Le rap, moi, je connaissais quelques rappeurs que j'aime beaucoup depuis plusieurs années, comme MC Solar ou Oxmo Puccino. Après, disons que c'est pas que c'était pas ma tasse de thé, c'est que en fait j'étais ignorant de ce que pouvait être le rap. Alors, l'idée d'examiner la question du rap et de soulever son intérêt philosophique, ça, l'idée est née progressivement au fur et à mesure de ma rencontre avec les publics liés au rock, notamment les philo-concerts. Après les performances autour du rock et de la philo, on posait assez régulièrement la question, est-ce que le rap a une dimension philosophique? Et à force, et moi, bon, répondre comme ça en 2 minutes, c'était pas trop pratique. À force d'entendre la question, y a-t-il une, comme dans le rock, un intérêt philosophique du rap? À force d'entendre cette question, bah, je me la suis posée à moi-même. Ce qui m'a obligé à écouter des rappeurs que j'écoutais pas ou peu jusque-là. Rappeur français, et ce dans tous les genres du rap français. Pas seulement le rap bling-bling, mais aussi le rap politique, conscient, hardcore, égotrip, rap poétique, etc. Donc, moi, j'ai écouté pas mal de rap. Et c'est seulement après avoir écouté le rap et après avoir dégagé le constat qu'il y avait effectivement, sous une forme très différente de celle du rock, mais une interrogation philosophique ou métaphysique, même existentielle, dans le rap, que je me suis dit, bon, pourquoi pas, effectivement, transformer ça en livre. Ce que j'ai fait, donc, j'ai monté un projet éditorial qui a été accepté, et puis de là, effectivement, j'ai écrit le livre. Avant de l'écrire, j'ai passé quand même 6 mois à n'écouter que du rap, et en reprenant tout à la base, en tout cas en matière de rap français, quoi.
Vous écrivez que rap et philosophie partagent un esprit critique subversif qui opère la construction d'une idée et d'une œuvre par la déconstruction des raisonnements déjà établis. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que les démonstrations, les raisonnements que la culture possède, bon, sont établis à travers des normes, des méthodologies officielles, acceptées. Le propre de tout art, en fait, que ce soit le rap, le rock, la danse contemporaine, la peinture abstraite, la musique contemporaine, le propre de l'art contemporain, c'est de reprendre tous les raisonnements traditionnels, de les démonter comme on démonte une voiture, et de les remonter, donc de déconstruire, et non pas de détruire, et de reconstruire sous l'angle de préoccupations qui se formulent de façon nouvelle aujourd'hui. À travers donc des styles, des genres comme le pop, le rock, comme le hip-hop ou d'autres choses encore. La critique, c'est une critique philosophique. Mais on fait ça en philosophie depuis très longtemps. Depuis l'Antiquité, on reprend les raisons philosophiques, on les démonte et on les remonte. Et c'est ce que fait l'art actuellement, en fait.
Quelles thématiques sont récurrentes dans les textes de rap français, des thématiques partagées avec la philosophie ?
Moi, je pense que le thème majeur du rap français, c'est le temps. Et c'est pour ça qu'avec 4 crises, on va faire une performance sur le temps. C'est le temps qui passe. Non seulement un thème majeur dans le rap français, mais c'est quasiment une obsession. J'ai l'impression que les rappeurs sont obsédés par le temps. Par le temps qui passe, par cette question, est-ce que le temps construit ou détruit ? Il y a une obsession du temps, de la possible réversibilité du temps, c'est-à-dire que on prend du temps pour travailler, pour se faire connaître. On ne sait pas trop si ça va marcher, donc une forme d'absence de confiance à l'égard du temps qui passe. Et puis une fois que les choses sont acquises, on a peur du temps qui passe comme quelque chose qui pourrait nous retirer ce qui a été acquis. Ça, c'est une thématique extrêmement présente dans le rap. Le temps qui passe, la peur du temps qui passe.
Vous en évoquez bien sûr d'autres, par exemple l'ego trip.
Alors ça, c'est pas un thème, c'est un genre. Alors c'est un genre qui amène un thème, c'est-à-dire le moi. Mais c'est vrai que le rap ego trip, c'est surtout un style au sein du rap, ou un genre, ou un sous-genre, en fait, enfin une sous-catégorie, je veux dire, au sein du rap, qui consiste à s'affirmer soi-même en tant que rappeur pour être le seul, le premier ou le dernier, enfin... le rap ego trip renvoie à une thématique privilégiée qui est le sujet pensant, le sujet agissant, le moi, le je, j-e. Après, c'est surtout une forme parce que ça, l'ego trip, il s'affirme surtout à travers des clashs, des battles, alors direct, ça on n'en voit plus trop, mais également indirect. Voilà, c'est le conflit des égos finalement, mais encore une fois, c'est une reprise de ce qui existe déjà dans la civilisation, c'est-à-dire que des égos soient en rivalité, ça c'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la rivalité des égos prend forme, spécifiquement dans le rap, en fait.
Quelle est la place dans le rap de la politique ou du politique, d'ailleurs ?
C'est une place à part. Il y a cette branche du rap français qu'on appelle le rap conscient, qui relève de la conscience politique et donc qu'on appelle aussi conscience politique, qui a pour but au fond de dépasser la violence du rap hardcore qui dénonce aussi la société, la politique, mais de façon très très crue. Le rap conscient effectivement a un souci politique, mais pas d'engagement, d'engagement et de désengagement, c'est-à-dire que le rap politique parvient à combler des vides, à combler des non-dits. Enfin, il y a beaucoup de non-dits dans la politique et dans l'histoire. Et la fonction de groupes rap comme La Rumeur, par exemple, ou Kazé, c'est un petit peu de remettre les points sur les i et de rappeler effectivement ce qu'il conviendrait de faire réellement politique.
Ouais. Francis Métivier, quelle forme ça va prendre la conférence de mercredi, donc avec quatre crises?
Ben, en fait, c'est pas une conférence, c'est une performance. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un discours un petit peu particulier parce que je vais l'avoir sur des musiques rap. Je me mets du rap en fait derrière moi pour avoir un style vocal qui est pas celui d'un rappeur, qui est pas celui d'un slammeur. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais voilà, un débit assez particulier. Et le rôle de Quatre Crises, ça va être d'illustré par des reprises de qu'il a pu faire avec Sixième Sens ou avec lui-même, Quatre Crises, donc de faire une dizaine en tout de reprises qui illustrent le propos. Donc en fait, il va intervenir au sein même du discours philosophique, à la fois pour l'interrompre et pour l'illustrer.
D'accord, donc ça, ce sera mercredi au Chabada à 19h.
À 19h.
Merci beaucoup, Francis Métivier, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et tout de suite, on écoute Kamsin le Zigzélé avec Alphabet.
This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable. Its purpose is to challenge the performance potential of your stereo equipment. Set the volume control in your stereo system at the preferred listening level. At this point, balance your speakers for equal output.
Les jeunes parlent plus français correctement, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais bêtises, je t'en foutrais, moi les foutaises, pareil, c'est la crise, quoi qu'il en soit. Robert s'endort sur la roue, c'est attends qu'on le réveille. Décidément, ma langue évolue bien trop rapidement sans être validée. Voilà, c'est ça l'idée, je sais que c'est validé. Je dirais que les jeunes plus avares faire Pascal moins bavard, mais du coup, les mots se font la malle. Faudrait faire quelque chose pour les lettres et la voir, car voyez-vous, j'en oublie presque les L et j'ai la coupe soufflée, enfin, j'ai le souffle coupé, les formules qui s'en mêlent, ha, ha, ha. Les pieds de mes verres perdent les syllabes, je crie aux sandales, mon discours est haché, quel cache. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne badinait pas avec la rime. La faute à qui? La faute au chic. Gigantesque Jacques, dont nom m'a piqué le L. La faute à Georges, qui a brassé le verbe dans tous les sens. Catastrophe, on a égaré les règles, maintenant la virgule en pince. Pour l'apostrophe est mince, le L. Ce grand guignol s'est travesti et s'est mis à rire comme une folle. Lol. M, le chétif, le chéri à sa maman s'est fait draguer par Chédid pour chanter le complexe du grand flex. Moi je dis N, oh N, non non, rendez-moi les lettres, au moins le N, qu'on puisse enlever la haine, projeter à côté du F. Oh mon dieu, il a fallu que tu mettes ton grain de sel dans notre tour de Babel pour que tu te gardes ton paradis. Mais quel peuplé entre la peste et le choléra. Mais s'il te peuplé, regarde ma choléra. Ralentis le camstine, la mise, puis les F et t'as aucune idée de ce qu'on subit en phrase pendant tout ce temps. Mais je suis devant, je ne manque pas d'air. Et les lettres en se soulevant ont modelé ma nouvelle ère. De jeu, est-ce que vous m'entendez? Grand benet, petit vieux, c'est pas si terrible. En fait, notre langue pour la défendre et la futer, faut juste la pratiquer. Pour les idiots et les pas très futés, les conspus et qu'on pas encore tiqué, tant pis, vous prendrez le prochain V. Véhicule, le prochain train, vous accrocherez le W. Du papa, pas qu'on vous réviserait votre alphabet avec ou sans Z, X, Y, Z.
(rire) 19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
C'est l'heure du récap du week-end sportif angevin ce soir, c'est Julien qui s'y colle. Salut Julien.
Salut Tiffaine. Allez, on commence par le foot avec le SCO qui se déplaçait à Ajaccio pour la 15e journée de Ligue 2. Match nul un partout qui satisfait les joueurs de Stéphane Moulin après la semaine difficile que le club vient de vivre.
On rappelle que le SCO a été cité à tort dans l'affaire des matchs truqués de Ligue 2 qui secouent le monde du foot en ce moment.
Ouais, ce serait une bourde d'un journaliste qui a confondu Stéphane Moulin, le coach angevin, avec Michel Moulin, un acteur central dans cette magouille. Ça fait quand même pas très pro.
Actu basket maintenant, l'ABC affrontait Provence Basket vendredi soir.
Lourde défaite de nos basketteurs, puisqu'ils s'inclinent 79-62, ils sont avant-derniers au classement de Pro B.
En handball, Angers-Noyant, jouait contre Strasbourg hier après-midi.
Et ouais, et là, ça s'est bien passé puisque Angers-Noyant l'emporte 25-22. Après une saison dernière difficile, on occupe une 8e place qui est assez encourageante.
Enfin, c'était l'événement sportif du week-end à Angers, la Continental Cup de hockey sur glace.
Ouais, la Continental Cup, c'est l'équivalent de l'Europa League en foot, une Coupe d'Europe de seconde zone. Un groupe des demi-finales était organisé dans notre vétuste patinoire du Haras. Nos dus comptent alors disputer 3 matchs en 3 jours.
Alors dans l'ordre, vendredi, on jouait contre Sanok, une équipe venue tout droit de Pologne.
Première éclat de nos ducs avec une large victoire 4-0.
Samedi soir, c'était aux Belfast Giants de faire face à nos hockeyeurs.
Et seconde victoire d'affilée sur le score de 2-1 au cours d'un match où le réalisme angevin aura fait la différence.
Et dimanche dernier, match du week-end contre les Biélorusses de Grodno.
C'est la seule équipe qui aura su résister à nos ducs, défaite 4-3 après un match assez fou. Angers termine finalement deuxième de ce week-end de Coupe d'Europe et se qualifie pour la première finale européenne de l'histoire du club.
Merci beaucoup Julien, c'était très complet.
Merci Tiffen.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et la permission de ce soir, c'est avec Raphaël, notre stagiaire cette semaine. Salut Raphaël.
Salut.
Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
Pour tous ceux qui ont réservé leur place au Shabada pour aller voir le groupe Pop Morshiba à 20h, eh bien bon concert à vous. Et oui, il fallait être rapide ce soir car ce soir ce concert est complet. Et pour tous les autres qui n'ont pas eu leur place au Shabada, je vous propose un film. Sur le chemin de l'école, c'est l'histoire de 4 enfants dans 4 pays différents qui, pour aller à l'école, doivent faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est comme ça chaque jour pour eux. Si ça vous intéresse, c'est au 400 coups à 20h15 ce soir. Et c'est en présence du responsable de l'antenne Aide et Action d'Angers, Patrick Schlasta.
C'est pas facile à dire. Merci Raphaël. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Voici un extrait de Dubway, votre émission dub du jeudi soir.
Alors selon vous, je vais vous poser la question, ce sera ça le plus intéressant. Selon vous, quelle est la meilleure façon de gouverner les gars? Je sais pas si vous avez des idées, comme ça là, sur le vif.
Est-ce qu'on pourrait pas faire sans?
Ah voilà, sans gouvernement, ça devient intéressant. Stan, t'as une idée toi?
Moi je pense qu'il faut gouverner en confiance, vraiment avoir confiance en la personne qui prend les plus grosses décisions de notre quotidien, c'est ça?
Donc faire confiance aux dirigeants.
Voilà.
Encore faut-il pouvoir leur faire confiance.
Voilà, c'est ça.
Ouais, moi je verrais bien un petit gouvernement mondial pour éviter les inégalités entre pays, comme on peut avoir aujourd'hui, ouais, où chaque pays ferait partie d'une grande assemblée, au final une assemblée mondiale.
Il n'y aurait plus de problèmes de délocalisation
Ça éviterait ces problèmes-là. Ouais.
D'accord.
Ouais, faut fermer les frontières. Enfin,
fermer
les frontières,
les ouvrir,
les détruire les frontières.
Ouais. C'est ça.
Ouais, d'accord. Bah, je vous propose d'écouter une petite citation de Goethe. Ouais, Goethe. Qui va nous éclairer ce soir. Et donc, à la question « Quel est le meilleur gouvernement ?», il nous répond « Celui qui nous apprend à nous gouverner nous-mêmes. »
Vous pouvez réécouter la totalité de Dubway sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Ostros Mundus. Michel a fait se promener des micros tout autour du monde. Et suivi à 20h30 de Breakfast Radio, une demi-heure de voyage à travers les ondes internationales au fil du lever du soleil. Nous, on se retrouve demain à 19h. Nous parlerons du droit au logement opposable. Merci à Yann, à Julien, à Raphaël. Merci aussi à Thomas pour la co-préparation de l'émission et à Raoul pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.